il y a quelques semaines, nous avons étudié donc tout le livre de Malachie. Mais aujourd'hui, avant de terminer, je voudrais surtout faire le point parce que il y a une chose qui est très importante pour le livre de Malachie, qui est en fait un des thèmes principaux de ce petit livre, mais c'est bizarrement peut-être la chose la moins connue qui est annoncée dans ce livre. Et c'est le thème de l'amour. En fait, en Malachie, c'est une lettre, quelque part, d'amour. Et c'est ça, en fait, le lien entre les diverses exhortations qui lient tout ensemble et qui donnent un véritable sens et qui donnent beaucoup de poids, en fait, à tout ce qui est dit du début jusqu'à la fin. Et de toute façon, ça ne doit pas nous choquer parce que nous lisons en 1 Jean chapitre 4 que Dieu est amour. Mais parfois, concrètement, on peut se poser la question, oui, Dieu est amour, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Et nous pouvons être sûrs que lorsque nous disons que Dieu est amour, ça ne veut pas dire que Dieu est égal à tout ce qu'on appelle, surtout de nos jours, amour. Mais, en fait, c'est lui qui nous dit ce que c'est. Pour la plupart, l'amour, c'est quelque chose que l'on ressent. Et surtout, je remarque que on reconnaît quand l'amour n'existe plus ou que c'est quelque chose qui manque. Mais ça reste quand même abstrait. Par contre, regardez dans notre culture, l'amour reste quand même le sujet majeur de l'art, des chansons populaires, des films, enfin, c'est partout. Et, chose intéressante, notre Créateur, il s'est exprimé, il a exprimé en fait son amour au travers de sa parole. Et il a utilisé la vécue des hommes et des femmes. Et avec ceci, il a tissé comme une œuvre merveilleuse, un tableau qui nous montre, ben voilà ce que c'est l'amour. Et nous voyons justement dans les histoires des vrais hommes et avec leur interaction avec Dieu, surtout ce que c'est l'amour de Dieu et aussi ce que l'homme peut en avoir vis-à-vis de Dieu. Il y a, par exemple, l'histoire magnifique d'un homme, Abraham, qui a vécu une vie tellement proche avec Dieu que on l'appelle et on se souvient de lui comme l'ami de Dieu. Quelque chose de merveilleuse. Mais, sans doute, le point central où nous voyons l'amour de Dieu vécu dans la vie d'un homme, c'est dans Dieu incarné, c'est Jésus-Christ en fait. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus-Christ, qui est à la fois Dieu et homme, en fait, il a mieux exprimé ce que c'est le véritable amour de Dieu, lorsque il est allé jusqu'au bout de son amour en se laissant crucifier. Puis, ressuscité, il fut crucifié pour nos péchés, par son amour. Ressuscité pour nous donner la vie, pour que nous vivions dans son amour. Mais, même si ça peut surprendre, nous pouvons voir l'amour dans les discours des petits prophètes. Oui, et je pense que c'est peut-être la chose qui nous échappe surtout lorsqu'il y a des longs passages d'exhortation ou parfois des menaces. Mais c'est exactement ce que nous avons devant les yeux. Et donc, je voulais clôturer notre étude, cette fois-ci de Malachie, avec ce thème, même si c'est dominant, dans le livre de Malachie, un peu inconnu. Parce que même logiquement, Dieu est amour et Dieu est le même aujourd'hui, hier et pour toujours. Et dans l'Ancien Testament, on pense plutôt à son côté, celui qui donne des commandements. Mais comment est-ce que Jésus a résumé les commandements? Quelle était la première? Aimer, voilà, aimer Dieu. Le deuxième, c'est? Voilà, et donc les commandements se résument par comment? Par l'amour, effectivement. Dieu est amour. Alors j'aimerais regarder d'abord comment Dieu exprime son amour dans ce livre. Et puis, ce qui lui manquait en retour. Alors voilà, voici comment l'Éternel il exprime son amour. C'est assez franche. C'est dans son choix d'abord envers Israël. C'est en se souvenant de son passé avec Lévi. Et puis, le plaisir qu'il a lorsqu'il entend les gens parlent bien de lui. Tout d'abord, c'est dans son choix d'Israël. Chapitre 1, verset 2. C'est assez clair. Il dit, « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Voilà, « Je vous ai aimé. » Et vous dites, « En quoi nous as-tu aimé ?» Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Il les a choisis, le choix d'Israël. Et remarquez, c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans les films. Mais un des grands secrets de l'amour, c'est que c'est un choix continuel de vivre dans l'amour. Et c'est un choix même continuel. Certes, il y a de l'attraction, oui, il y a un peu cette quelque chose, oui, ok. Mais l'amour va beaucoup plus loin, toujours plus loin. Par exemple, par amour, les parents se privent des conforts de la vie pour le bien-être de leurs enfants. C'est un choix. Et ils le font chaque jour de leur vie. Par amour, justement, les époux abandonnent les autres pour s'attacher l'un à l'autre pour toute la vie. C'est un choix. Et c'est un choix journalier. Par amour, Dieu a choisi Israël pour toujours. C'est inexplicable. Comment? Comment est-ce qu'il peut faire ça? C'est inexplicable pourquoi il peut faire ça. Justement, Moïse voulait que Israël le sache. Peut-être c'est parce qu'il ne voulait pas qu'ils aient une grosse tête, je ne sais pas, mais il voulait vraiment, un peu de façon poétique, qu'ils comprennent bien ceci. Et c'est en Deutéronome, chapitre 7, versets 7 et 8. Deutéronome 7, versets 7 et 8. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Et voilà, il définit son amour pour eux. Ce n'est pas parce que vous êtes le plus riche, le plus beau, le plus puissant. C'est tout simplement parce que Dieu vous aime. En fait, son amour pour Israël, je crois, se voit le mieux lorsque le peuple est au fond de la rébellion, qu'il y a une partie qui est déjà en Babylone, exilée à cause de leur méchanceté envers l'Éternel, et il y a juste une partie qui reste à Jérusalem, qui sont toujours rebelles. Et puis, par la bouche de Jérémie le prophète, l'Éternel dit en Jérémie 31:3, « Je vous ai aimé avec un amour éternel. » C'est fantastique. Son amour n'est donc pas mérité. mais ce qu'on appelle la grâce. Sa grâce. En fait, si vous arriviez à savoir pourquoi, ou bien expliquer pourquoi Israël, ou si vous méritez la grâce de l'amour, ou la grâce de Dieu, vous n'êtes plus, ou vous ne parlez plus de la grâce. Vous ne pouvez pas dire pourquoi Dieu vous a choisi. Sinon, ça montre que vous n'avez pas compris. Justement, est-ce qu'on peut dire, pour retourner dans le contexte, que Ésaü fut toujours plus juste que Jacob pendant toute sa vie? Non. Parfois, la plus grande difficulté qu'on a, c'est de dire, mais pourquoi est-ce qu'il a choisi Jacob? Honnêtement, c'est à cause de son amour, c'est sa grâce. Bien sûr, Jacob a répandu, il s'est attaché à Dieu, mais c'est ce mystère de la grâce. En fait, regardez avec moi en Romains 11, s'il vous plaît. Romains 11, verset 6, parce que Paul dit à peu près la même chose aussi en parlant du choix de Dieu envers Israël. Romains 11, verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Vous voyez, si vous arrivez à mériter l'amour de Dieu, si vous pouvez, dans votre justice, faire quelque chose pour que Dieu vous aime plus, vous avez mérité quelque chose. Et ce n'est plus la grâce. Vous voyez. Alors, oui, il y a votre part. Oui, nous répandons, nous recevons par la foi, oui. Mais nous parlons de son amour à lui, de sa grâce à lui. C'est de ce même grand mystère inexplicable que, comme il est dit, en 1 Jean 2, verset 2, que Jésus-Christ, il est devenu la victime expiatoire pour nous. Pas seulement nous, mais pour le péché du monde entier. Ça, c'est la puissance de l'amour de notre Dieu. De son pardon efficace et éternel. Merveilleux. Et parfois, on a du mal à expliquer l'amour de Dieu. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est pour ça que les mots « Dieu vous aime » sont tellement puissants. Parce que c'est la vérité. Au lieu de le saisir mentalement, la chose dont nous avons le plus besoin, c'est de le recevoir par la foi. Et donc, Dieu exprime son amour dans son choix d'Israël. Deuxièmement, il exprime aussi en se souvenant du passé avec Lévi, en Malachie, chapitre 2, verset 5. C'est lorsque Dieu il se souvient de ses premiers moments avec les Lévites. Verset 5 de chapitre 2. « Mon alliance était avec lui, était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craigne, il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. » Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Alors, il se souvient donc de son passé avec Lévi. Dans le passage, en fait, il s'en prend aux fils de Lévi, les Lévites, pour leur manque de fidélité. Mais on a surtout l'impression qu'il garde un bon souvenir d'eux. Vous voyez, Dieu se plaisait dans l'alliance qu'il a fait avec eux. Il se plaisait à leur donner la vie et la paix, qu'ils vivent dans la paix et dans la vie avec lui. Il voulait les bénir et répandre sa bénédiction sur eux. Il était content de le faire. Il se rappelait d'une bonne relation entre eux, où les sacrificateurs le craignaient. Il y a un psaume 139, qui décrit aussi bien comment Dieu s'intéresse à nous. Et nous lisons dans ce psaume que Dieu, il nous a connus même avant notre création, en fait, notre conception. Mais il y a surtout le verset 17 qui m'intéresse. Le psaume 139, verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Jour et nuit, ses yeux veillent sur nous. Nous sommes toujours en sa présence. Même si vous étiez pressé de venir ici ce matin, il était avec vous, il vous a accompagné. Pendant que vous dormiez, il était là. En Éphésiens 1, nous lisons qu'il nous a connus en Christ avant la fondation du monde. Que ses pensées sont innombrables. Même dans ses commandements, nous voyons le cœur d'un Père qui veut protéger ses enfants du mal. Ses commandements ne sont pas pénibles, donc, mais c'est dans l'amour, et c'est pour l'amour. Alors, je ne veux pas être trop émotionnel, mais si Dieu garde des bons souvenirs des Lévites, et si nous sommes donc en Christ, et nous sommes entrés dans des meilleures promesses, est-ce qu'il ne garde pas aussi des bons souvenirs de nous, les temps que nous avons passés avec lui? Ces moments pour nous, ils étaient sublimes, certes. Mais on a ici dans le texte quoi pour dire, bah, lui aussi il se souvient de ces moments, peut-être de façon plus forte que qui est possible pour nous d'expliquer. Et ça donne envie de passer encore plus de temps. Alors, il y a une troisième façon dans le livre de Malachie où il exprime son amour. Et c'est lorsque les gens parlent bien de lui. Et c'est en chapitre 3, verset 16. Malachie 3, verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et l'écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et ça, c'est intéressant parce que c'est à la suite d'un passage où les gens parlent mal de Dieu. Et là, il dit qu'il écoute les conversations où les gens, ils parlent bien de lui. Je crois que nous tous, nous connaissons les blessures des calomnies ou des paroles qui étaient trop dures ou agressives ou de jugement envers nous. Par contre, si vous aviez connu quelqu'un qui parle toujours bien des autres, vous connaissez aussi combien c'est infectieux. Justement, si vous n'aviez pas eu cette occasion, je vous invite à venir rejoindre l'équipe parce que Pasteur Craig, qui est venu des États-Unis, il est justement un de ces personnes. Et à quel point c'est infectieux, c'est bien. Et ça donne aussi envie de parler ainsi parce que ce n'est pas hypocrite de parler bien toujours des autres. Ce n'est pas non plus manipulateur. On ne doit pas entrer dans le genre de Jean de La Fontaine avec le corbeau et son fromage. Ce n'est pas flatteur. Mais c'est bien et c'est édifiant. Parler bien de quelqu'un ne doit pas forcément être mauvais, mais si la personne est déjà créée à l'image de Dieu, ben déjà on a des choses, des bonnes choses à dire. Et deuxièmement, s'ils sont aussi nés de nouveau, vous pouvez parler bien du Christ qui est en eux. Parce que tout ce qui est en Christ est bien, est beau, est parfait. Quand nous parlons bien de Dieu, ça c'est la louange. C'est une forme de louange. Que ça entre dans nos conversations. C'est aussi, remarquez-vous, une forme d'évangélisation. Parce que lorsque nous évangélisons, nous parlons de ses bienfaits, n'est-ce pas? La meilleure chose qu'il a pu faire, il l'a fait en nous. Nous parlons bien de lui. Tous nos chansons de louange sont faits justement de ça. On ne le flatte pas, on dit la vérité. Il est aussi bien que ça, et encore mieux. Il est digne de louange. Et remarquez aussi combien notre Dieu est bon. Même si nous annonçons les doctrines, ils sont des œuvres que Dieu a fait pour nous. Remarquez, même dans l'évangélisation, dans le salut, la sotérologie, si vous voulez, l'étude de notre salut, ben, ce sont des belles choses que Dieu a fait. Dieu, il nous a vus dans notre misère, mais il est tellement bon qu'il s'est incarné dans notre chair pour qu'il puisse avoir compassion sur nous. C'est merveilleux, ça. Qu'il est allé jusqu'à donner sa vie comme victime expiatoire pour nous, c'est merveilleux de le dire. Et puis, que la mort n'avait rien sur lui, mais qu'il fut ressuscité par la puissance de Dieu après, ce sont des paroles de louange, ça. Nous parlons bien de lui, même en évangélisant. Ou en parlant des choses, des doctrines de base, si vous voulez. Dieu est vraiment bon. Il le mérite et il exprime son amour parce qu'il aime entendre cette conversation. Et en Malachie, nous voyons qu'il le note dans son livre. Alors, quelles sont les notes que vous voulez que Dieu prenne sur vous? Alors, il exprime son amour dans son choix. Il exprime aussi son amour en se souvenant de temps passé avec nous et en se rappelant des bonnes choses. Ça lui plaît aussi quand on parle bien de lui. Mais peut-être ce qui reste dans la mémoire lorsque nous lisons Malachie, c'est l'autre côté. Parce que, vous voyez, les Israélites, à cette époque, ils commençaient à se glisser un petit peu de leur relation. Et ils commençaient à perdre leur premier amour, en fait. Et Dieu, il désirait qu'ils répondissent différemment, en fait. L'amour réciproque, ben, il voulait que ça se voie dans l'honneur. qu'il devait lui donner, même dans la fidélité envers lui, aussi bien que dans la confiance. Mais malheureusement, l'honneur qu'on lui donnait à cette époque n'était pas encore ça. Et justement, en Malachie 1, verset 6, nous lisons, « Un fils honore son père et un serviteur son maître. » Et si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? On n'était même pas au courant. Spécifiquement, il leur fait des reproches sur leur service. Il donne l'exemple de leur sacrifice, parce que à cette époque, l'honneur qu'il lui montrait s'est dégradé au point qu'il commençait maintenant à offrir des animaux malades ou mutilés au lieu de faire ce qui était le mieux. Si vous voulez, c'est tellement un manque de respect et d'honneur envers Dieu que vous pouvez faire la même chose si vous voulez. Au lieu de payer vos impôts, une chose que je ne suggère jamais que vous le faites, il faut toujours payer ses impôts, mais c'est que vous allez donc devant le ministre des Finances et au lieu de payer ce que vous devez leur payer, vous leur donnez avec un chèque où il y a sans argent. Et puis voilà, vous moquez d'eux et puis vous donnez à eux ce chèque creuse et sans valeur. Ça, c'est le même genre de manque de respect que ces gens ils montraient à cette époque. Alors, par amour, nous offrons un service sans se plaindre. Parce que Dieu, il a fait des choses tellement merveilleuses dans notre vie. Sans se plaindre des autres, sans se plaindre des conditions, sans se plaindre ou sans se faisant le service à moitié. Mais avec tout notre cœur, parce que Dieu, il a fait tellement de bonnes choses pour nous. Par amour, nous offrons un service comme ça, parce que nous l'aimons et nous a aimé le premier. Justement, comme il est dit dans le psaume 122, verset 1, « Mon cœur était dans la joie quand on m'a dit, allons, venez à la maison de l'Éternel. » C'est un bon signe qui va dans ce même sens. Mais aussi, l'amour se réciproque se voit dans notre fidélité. La fidélité envers lui, mais surtout envers les autres. Chapitre 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers les autres en profanant l'alliance de nos pères? C'était pendant l'époque où les Israélites commençaient à se marier avec des femmes des dieux étrangers en répudiant leurs femmes, donc du Dieu vivant. Ça montrait que dans leur cœur, ils voulaient devenir à nouveau comme les nations environnantes. Un danger toujours, lorsque l'Église, par exemple, veut être plus comme le monde. En réalité, nous montrons notre véritable fidélité envers Dieu par notre fidélité les uns envers les autres. Comme il est dit en 1 Jean, vous ne pouvez pas aimer Dieu que vous n'avez pas vu en haïssant votre frère. Ça, c'est impossible. Ça montre la réalité de notre cœur. Si quelqu'un tombe dans le péché, ou si quelqu'un nous déçoit, notre fidélité, en choisissant la restauration, en choisissant le pardon, est quelque chose qui plaît à Dieu. Parce que c'est à l'image de Christ, c'est ce que Christ a fait pour nous. La fidélité, malheureusement, c'est une qualité rare de notre époque. Mais, remarquez, c'est un fruit de l'esprit. Et si vous voyez dans votre vie d'un moment par un autre, que c'est quelque chose qui vous manque, vous pouvez demander que Dieu produise ce fruit dans votre vie, parce que c'est un fruit de l'Esprit de Dieu qui vous remplisse de son Saint-Esprit afin que la fidélité pousse dans votre vie comme des fruits de l'été qui sont au marché en ce moment. La confiance est aussi un autre signe de notre amour. Chapitre 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Puis il dit, vous m'avez trompé en fait. Comment est-ce qu'ils ont pu tromper Dieu? C'est le fameux passage où Dieu il fait des reproches parce que les Israélites ont arrêté d'amener leurs offrandes à l'autel. Et Dieu, chose remarquable, les accuse de l'avoir trompé. Comment ça? Parce que tout appartient déjà à Dieu. Notre argent n'est pas réellement à nous, mais c'est à lui déjà. Et en fait, quand nous amenons donc nos offrandes et tout, c'est un signe pas de notre foi, oui peut-être, mais surtout, c'est un signe de notre amour. Et c'est ça ce qu'il dit dans le contexte. En fait, refusant Dieu, ça, il le voit comme une brèche dans notre amour, un manque de confiance. C'est comme on lui dit, mais Dieu, je ne te fais pas confiance avec ce que j'ai dans les poches, et même si ça t'appartient, je le garde pour moi. Mais Dieu, selon 2 Corinthiens 9, 7, il aime ceux qui donnent avec joie. Ah, la joie. La joie aussi, comme la générosité, ce sont aussi des fruits de l'esprit. L'esprit produit ça dans notre vie, ainsi que l'amour. Alors si nous faisons l'état des lieux de notre vie spirituelle, et nous voyons que ces choses peut-être nous manquent un petit peu, demandez que Dieu fait pousser ces choses par la puissance de son Saint-Esprit. C'est lui qui peut le faire. Et de toute façon, si nous le faisons par nos propres moyens, par notre propre effort, ça n'aurait pas le même effet. En conclusion, nous avons vu comment Dieu exprime son amour. Et l'amour réciproque qu'il désirait de la part d'Israël. Et cela nous conduit peut-être à poser la question suivante. Quelle est la condition de mon amour envers Dieu? Est-ce qu'il brûle encore? Bravo, qu'il brûle encore 10 fois plus. Est-ce que ça commence à devenir tiède? Alors que le Seigneur ranime votre amour. Est-ce qu'il devient de plus froid? Oh, revenez à lui. Il revient envers vous. Jésus nous a montré ce que c'est d'aimer. Et surtout, aimer Dieu et aimer les hommes. Sa croix est l'exemple parfait de l'amour. Être obéissant à Dieu le Père par amour, même aimer les uns les autres. Qu'il ranime donc notre amour, pas juste un petit peu, mais jusqu'à ce que cette église brûle d'un feu qui ravage cette ville, pourquoi pas ce pays. Amen. Prions.